Avant-dernière course de la saison en Formule 1, ça s'est passé bien sûr lors du Grand Prix du Brésil, remporté par Lewis Hamilton, qui confirme du même coup le championnat des constructeurs de Mercedes. Mais l'histoire est la suivante, c'est qu'au 44e tour, Max Verstappen sur Red Bull se dirigeait vers une victoire et un incident de course l'en a privé. Avec nous, notre collaborateur et champion du monde de Formule 1, Jacques Villeneuve, qui a assisté bien sûr sur place au Grand Prix. Salut Jacques!
Salut.
Il y a eu une pénalité de 10 secondes pour Ocon et Verstappen l'a accueilli ainsi. Lui dit, moi, la pénalité, c'est qu'on m'a volé la course. Est-ce que c'est comme ça que tu l'as vu?
Ah, carrément, oui. C'est un stop and go de 10 secondes. Donc, c'est la pénalité la plus lourde possible pour un accrochage en course, pour avoir sorti quelqu'un d'autre. C'était ridicule de la part de Ocon de vouloir se dédoubler et en plus d'être agressif dans un dépassement sur le meneur de la course. Complètement inutile, complètement ridicule. Mais en même temps, j'imagine qu'il voulait ralentir Verstappen pour laisser la Mercedes remonter. Depuis le début de la saison, à chaque fois qu'il y a une Mercedes derrière lui, il freine, il les laisse passer. Et après, en sortant de la voiture, il dit « je suis un pilote Mercedes ». Donc, c'était un peu extravagant. Et le pire, c'est qu'il à la radio, il disait même, il pointait du doigt Verstappen comme le fautif au lieu de demander des excuses. C'est normal que Verstappen soit énervé.
Ben oui, c'est là que je voulais avoir ta vision des choses parce que j'étais curieux de savoir s'il y en a qui donnent l'absolution à Ocon dans cet incident où c'est vraiment 100% la faute d'Ocon. Là.
Ben 100% la faute d'Ocon parce qu'il était un tour derrière, donc il n'a pas à se battre avec le meneur de la course. Principalement, maintenant, si c'était pour une position, on pourrait peut-être regarder l'incident différemment, mais là, il a sorti le meneur de la course. C'est complètement ridicule.
Et tu nous l'as déjà raconté, Jacques. C'est tellement précieux. C'est tellement quelque chose de spécial de gagner une course en Formule 1. Quand t'es privé d'une victoire, là, oh là là, il y a lieu de laisser place à une certaine frustration au point où je pense que Verstappen aurait mis ça en découdre sur un ring.
Ah oui, mais c'est retenu. Hein. Il a juste poussé un petit peu. Donc ça, dans les années 70, c'était deux yeux au beurre noir. Donc c'était plus intéressant que maintenant. Là, il s'est quand même bien contrôlé. Ocon faisait un peu le baveux. Donc, c'est un peu normal qu'en face, ça réagissait.
As-tu déjà vécu personnellement pareille frustration en piste, Jacques?
Oui, je m'étais fait sortir par un retardataire, je crois que c'était Badoer, je me souviens plus, à Monaco en 96. Donc, c'est en le doublant. Là, c'était encore pire, c'est Ocon voulait se dédoubler. Donc, c'est lui qui tentait un dépassement sur le meneur de la course. Donc, c'est un peu le monde à l'envers.
Est-ce que tu as déjà transporté une frustration jusque dans l'après-course au point de vouloir régler le cas de ton adversaire?
Non, pas au niveau agressif, mais le souvenir reste et ensuite ça se payait sur la piste.
Parce que j'ai l'impression que Lewis Hamilton se serait bien contenté d'une deuxième place, Jacques. Je pense qu'il, je dis pas qu'il aurait laissé là, la victoire à Verstappen, mais je pense pas que son but c'était absolument de gagner la course hier.
Non, je suis pas d'accord. Lewis Hamilton veut battre tous les records, donc ne pas gagner, ce n'était pas quelque chose de positif. Et lui, il était très content de gagner, quelle que soit la manière.
Donc, ouais, t'as raison de me ramener par rapport à ça, mais dans le sens que je pense pas qu'il aurait pris des risques pour aller chercher Verstappen, non?
Ah, il n'était pas capable. Il était incapable d'aller chercher Verstappen. Il n'avait pas le rythme. Il était à la limite. Ses voitures bullaient. Verstappen était plus rapide que Lewis Hamilton, même après l'accident, même après que sa voiture soit endommagée. Donc, Lewis Hamilton n'avait pas le rythme pour aller le chercher.
La performance de la Red Bull de Verstappen donne-t-elle une indication de ce qui se prépare pour la fin de saison et la saison prochaine, ou c'est vraiment là une course où on a soutiré le maximum de la bagnole du moteur?
C'est pas le maximum de la bagnole du moteur. C'est le fait que la Red Bull use moins la gomme, chauffe moins la gomme. Et donc, elle est capable de rouler plus proche de la limite. Les Mercedes doivent rouler à 80 ou 70% des capacités. La Red Bull peut rouler à 90% parce qu'elle chauffe moins sa gomme. Donc, le vrai rythme, on l'a vu en qualification, la Red Bull était assez loin. Mais vu qu'elle préserve sa gomme, elle pouvait attaquer.
On peut pas redonner la victoire à Verstappen, là. On lui a volé. Mais 10 secondes de pénalité dans pareilles circonstances. Quand bien même on lui aura donné 2 minutes, ça aurait pas changé l'issue de la course. Mais est-ce que tu trouves que c'est ridicule? 10 minutes comme la plus grave pénalité avant la sanction?
Non, c'est dans le règlement, c'est ce qu'il y a de plus grand comme pénalité. Donc, et ça lui a été infligé. Donc, c'est très bien. Parce que le message est passé, le message est clair. Ça veut dire, c'est toi le fautif, c'est ça, principalement ce que ça voulait dire. Et c'est ça qui était important. Et ça n'avait pas une grosse influence sur la course d'Ocon. En fait, ça ne changeait rien à la course d'Ocon. Mais le message a été passé. Et aussi la perception dans le paddock. Parce que là, ce que ça montre, c'est que tous les accrochages qu'il a eu depuis 2 ans, où il y avait un doute, et il se retrouvait à chaque fois dans le trouble et il pointait du doigt son adversaire, Eh bien, maintenant, le paddock, les gens commencent à se dire, mais finalement, c'était peut-être de sa faute tous ces accrochages-là, et il a une très mauvaise lecture de la course. Il est capable d'aller vite, mais ce n'est pas un pilote complet parce que à chaque fois, il lit mal les situations.
Le championnat des pilotes, évidemment, tous n'en ont que pour ce championnat. C'est le plus prestigieux. Mais quand une écurie avec son pilote réussit un doublé, comme c'est le cas pour Mercedes encore cette année, c'est quoi le rayonnement d'un doublé comme ça pour la marque Mercedes mondialement, Jacques, selon toi, sans être un expert marketing quand même, t'es à même de constater du rayonnement d'une marque comme celle-là?
Côté image, ça ne vaut pratiquement rien. Ce qui compte, c'est le championnat pilote. Et la voiture avec laquelle le pilote a gagné son championnat, c'est elle qui devient la voiture championne du monde, même si Ferrari va gagner le championnat constructeur, par exemple. Donc, ça n'a pas vraiment de valeur. Une écurie va l'utiliser, va en faire de la publicité, mais tout le monde s'en fiche un peu. Ça a une valeur financière puisque ça rapporte plus de droits télé.
Mm-hmm. Fort intéressant. Mercedes, donc. Et la valeur de ces bolides-là, là, les bolides, comme toi, ta voiture, la Williams, avec laquelle tu as gagné un championnat du monde, sais-tu où elle est?
Oui. Celle avec laquelle j'ai gagné, non. Celle de Jerez, non. Celle avec laquelle j'ai fait la pole en Australie, oui, c'est un des propriétaires de Williams qui l'a, mais les autres, non, je suis pas tellement au courant.
OK. Mais j'imagine que veut pas, ça leur donne beaucoup de valeur là, à ces voitures-là avec lesquelles on a gagné. Si un bâton d'hockey avec lequel une légende a compté un but a une certaine valeur, j'ose pas imaginer le prix d'une Formule 1 avec laquelle quelqu'un a gagné un championnat du monde, hein, Jacques?
Ben, les Formule 1 qui ont de la valeur, ce sont principalement les Ferrari. Les autres valent beaucoup moins.
Ah oui, à ce point-là, parce que c'est Ferrari, comme dirait l'autre.
Exactement, Ferrari, c'est Ferrari.
Motivé à arriver à la dernière course de la saison, à la conclusion de ce championnat, alors que tout est joué du côté des constructeurs et des pilotes, on se prépare pour Abu Dhabi, ça va être la fête?
Je sais pas, tout le monde est fatigué, là, tout le monde est tanné, la saison est trop longue. Pas en quantité de Grand Prix, mais en quantité de temps, de début mars jusqu'à décembre, fin novembre, ça commence à être un peu long et tout le monde se tanne un peu.
C'est quoi le maximum de courses qu'on peut inscrire au calendrier d'une année? Là, on parle d'Hanoï, mais qu'est-ce que tu vois comme maximum de courses quand tu parles de la fatigue que tout le monde ressent déjà à l'avant-dernière?
Ben, je sais pas, il y a une époque, il y avait 16 courses, ensuite 17, tout le monde trouvait que c'était beaucoup, c'est passé à 21, mais il n'y a plus d'essais entre, donc tout le monde s'est dit, ah, OK, ben, ça va être facile, mais finalement, non, parce que les journées d'essais, c'était, psychologiquement, c'était pas le même travail qu'un week-end de course. Mais plus que la quantité de Grand Prix, c'est la longueur sur l'année qui est un peu lourde maintenant pour les pilotes.
Tu dis, en terminant, tout le monde a hâte que ça finisse. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a plus hâte que ça finisse que le jeune Lance Stroll, parce que lui m'a dit une affaire quand il répond aux questions après les courses, là, oh boy, lui, il a hâte que ça finisse, hein?
Ben, c'est vrai que ses réponses sont très courtes. D'ailleurs, les journalistes dans le paddock commencent à s'énerver un peu parce qu'ils ont l'impression qu'il leur manque de respect. Donc oui, je pense qu'il a envie que ça se finisse et de pouvoir recommencer avec Force India, qui est une voiture quand même bien plus compétitive que la Williams. Mais un autre pilote qui a envie que ça se termine bientôt, c'est Vettel, parce que lui aussi, là, je pense qu'il est un peu tanné cette année.
La phrase dite la plus souvent par Lance cette année, « Ma voiture est tellement lente
». Oui, il faut se demander pourquoi.
En effet. Alors Jacques, un gros merci, bon retour sur l'autre continent et on se reparle pour la dernière à Abu Dhabi, bien sûr.
Ben oui, dans 2 semaines.
Effectivement. Alors, bon répit, c'est répit il y a, mon cher.
Merci. À la prochaine.
À la prochaine. Jacques Villeneuve, champion du monde de Formule 1, notre collaborateur aux amateurs de sport.